Je donne maintenant la parole à Yannick François, à qui revient le redoutable honneur de faire la vraie conférence d'ouverture de nos travaux.
Il y a près de 10 ans, ici même, se tenait la première grande manifestation consacrée à l'œuvre de Françoise Dolto. Certains d'entre vous probablement y étaient. 4 journées où furent explorées les pistes qu'elle avait ouvertes dans le champ de la psychanalyse d'enfants et à ses alentours. Il s'agissait, avec la plus grande rigueur, de déplier une œuvre mal connue, car trop souvent réduite à quelques lieux communs. Par-delà les figures convenues de géniale clinicienne ou de bonne grand-mère, il fallait donner à entendre la théoricienne. À partir de la matière clinique de la cure d'enfants, de ses rencontres thérapeutiques avec les nourrissons, il fallait montrer que Françoise Dolto avait tissé une œuvre psychanalytique avec ses concepts, avec ses avancées théoriques et techniques, et aussi, comme tout créateur en psychanalyse, même s'il s'en défend, avec sa conception de la nature humaine. Les journées qui vont suivre ont un autre enjeu, mais elles répondent à la même exigence. Pas plus qu'en 1999, il ne sera question d'instruire un procès en béatification de Françoise Dolto. On ne tentera pas non plus d'imaginer ce qu'outre-tombe, elle dirait, des questions qui nous animent aujourd'hui. Le principe directeur de ces journées est de considérer l'œuvre de Françoise Dolto en tant que source de concepts et de propositions propres à nous aider à penser les problèmes d'une époque où l'enfant, le fou, l'humain semble promis au silence. Une telle assertion indique la forme d'engagement militant qui soutient nos rencontres. L'ère du temps est au réductionnisme, au simplisme et à ce qui les accompagne. Il n'est pas de problème social ou éducatif dont la complexité ne trouve aussitôt sa réponse du côté des sciences ou des mâles déclarations de nos spécialistes ou de nos élus. On applique au fait humain, à son mystère et à son épaisseur, des outils sans commune mesure, en déniant l'évidence que l'humain est marqué au sceau du langage. Au contraire d'une telle dérive, tout ce qu'a proposé Dolto dans les multiples domaines où elle s'est aventurée avait ses racines dans la rencontre singulière d'un enfant. D'un enfant en souffrance. Une rencontre vraie, même si l'enfant qui souffre ne parle pas encore avec les mots. En d'autres termes, une rencontre d'êtres de langage. Le langage et ses lois. La première d'entre elles est que le langage affecte l'humain, qu'il le traverse sans que quiconque ne puisse jamais s'en rendre maître. Autre dimension, le langage est interlocution. Une parole attend d'être entendue pour que s'engage une mutuelle reconnaissance. Je suis parce que tu es. Tel est le réquisite de l'humanisation. Tout contredit à ce principe rouvre l'ère de la haine et de la barbarie. Pourtant, au profit de ce qui se désigne comme la modernité, prolifèrent les outils d'assujettissement de l'homme à des normes arbitraires, cyniques et vides de sens. On dépiste, on circonscrit dès la petite enfance des facteurs de risque délinquants. On renvoie les parents à leur incompétence, l'adolescent à ses conduites antisociales, l'ouvrier à son inemployabilité. Chacun reste en souffrance d'histoire, de récits, de paroles humanisantes, de mots qui le reconnaissent dans son essentielle subjectivité, dans sa radicale et fondamentale altérité. L'actualité de Françoise Dolto est celle d'un discours qui refuse le caractère inéluctable de la haine et de la ségrégation. Au pessimisme freudien qui engage dans une même voie tragique l'histoire de l'individu et de l'humanité, Dolto oppose la fonction pacifiante de la symbolisation. D'être marqué du langage n'aliène pas l'humain, mais lui impose de ne pouvoir se libérer que par l'autre, par une parole entendue, reconnue. En place de la haine et de la rivalité mortifère, Dolto installe le travail de la symbolisation. Le malaise dans la culture n'est pas inéluctable. À ce point où nous sommes, alors que tant d'humains s'éprouvent abandonnés, il reste encore à chacun le pouvoir de se réapproprier les lois symboliques du désir. La rencontre thérapeutique avec l'enfant devient le paradigme du possible. L'enfant entend les impasses où son désir s'est fourvoyé autant qu'il en entend les issues dont il ne demande qu'à se saisir. Au réductionnisme biologique, neurologique, comportementaliste, Françoise Dolto oppose la puissance vitalisante de la parole. Une parole qui ne vaut que d'être reçue par un autre, une parole qui tient l'un et l'autre solidaires, qui affecte le corps bien avant qu'il en soit locuteur. Voici la première piste, le premier outil d'analyse et de résistance à ce qui arrive aujourd'hui. Comment retrouver le fil rompu de la parole humanisante ? Par quel dispositif, par quel enseignement, par quel engagement soutenir et inventer les espaces où une parole qui se cherche puisse être entendue, reconnue, rendue à sa pleine valeur. Lorsque Dolto rencontrait un enfant, si jeune soit-il, elle instaurait une situation d'accueil et d'hospitalité. Il fallait découvrir ensemble de quel récit le symptôme venait témoigner. Au sein de tout ce qui avait été éprouvé, quelque chose, un événement, une parole, avait laissé sa marque dans la subjectivation, dans la subjectivité du seul fait que l'aspiration à l'humanisation de l'enfant en avait été contredite. Voilà une autre piste à suivre. Quels que soient nos métiers, et en particulier quand nous avons choisi ceux de l'enfance ou ceux du soin, en quoi pouvons-nous participer de l'humanisation ? Quels sont les outils de pensée qui soutiennent ou délivrent le désir du sujet sans pour autant l'aliéner à une idéologie ? L'œuvre de Françoise Dolto est marquée par cette tension entre un humanisme ancré dans la psychanalyse et l'exigence de liberté qui le déborde. Pour n'en donner qu'un exemple, lorsque Dolto impose les castrations symboligènes en tant qu'étape majeure du développement, elle se tient à la fois du côté de la rigueur des lois du désir inconscient et du côté de leur fonction initiatrice à l'autonomie. L'œuvre de Dolto s'attache au mouvement dialectique inconscient, à relancer sans fin entre les lois du désir et la créativité, entre l'assujettissement au langage et une subjectivation toujours inouïe. L'œuvre de Dolto est vaste, complexe. Elle a vu sa diffusion déborder les frontières de la communauté analytique. Pourtant, Dolto n'a pas souhaité constituer une école autour d'elle. Elle a préféré multiplier les gestes de transmission plutôt qu'adopter les règles d'un enseignement académique. Il fallait interroger cela en ouverture de ses journées pour lui donner toute sa profondeur. Même si Françoise Dolto a forgé des concepts neufs, si elle en a redéfini d'autres, on pourrait avancer que tout son enseignement avait avant tout une valeur propédeutique. Dolto ne voulait pas que l'on fasse du Dolto. Elle lançait des hypothèses qui lui venaient de la clinique, si ce n'est même des enfants, ainsi qu'elle l'affirmait, pour que d'autres les travaillent et les mettent à l'épreuve. Dolto espérait avant tout que son enseignement éveille le thérapeute ou le parent à lui-même et à la singularité de la rencontre avec l'enfant. Une forme d'enseignement liminaire, préparatoire à d'autres hypothèses, à d'autres voies. Au fond, chacun est en situation de construire sa lecture de Dolto pour nourrir son propre cheminement et pour, à l'occasion, en porter témoignage. Si fidélité à l'œuvre et à la personne de Françoise Dolto il y a, elle est de ce côté d'une pensée libre et inventive. Il ne s'agira donc pas de journée d'enseignement au sens formel du terme, mais d'un temps de partage, à la façon proprement doltoïenne de s'exposer sans s'effacer derrière ce que l'on a théorisé ou expérimenté. Il sera plutôt question de transmission, comme on le dit entre générations, que de déployer des modèles à imiter. Il sera plutôt question de tisser des liens entre personnes et champs professionnels que de viser un quelconque consensus. Se rassembler si nombreux autour d'une personne et de son œuvre, quand il s'agit de Dolto, est à prendre comme l'expression d'une aspiration commune et non comme la manifestation d'une adhésion à une pensée monolithique et en surplomb. Une aspiration sans doute à résister à la dévitalisation de la langue, à résister aux évidences du bon sens, qui justement sont vides de sens. Quand Françoise Dolto nous a parlé d'elle, elle a choisi de mettre l'accent sur son inadaptation, sur son étrangeté, sur tout ce qu'il aurait peut-être renvoyé à la marge aujourd'hui. La claudication peut être salutaire si elle est partagée, si elle invite à la rencontre d'autres qui boitent eux aussi, si elle stimule le désir de vivre et de comprendre avant celui de ne plus boiter. Je fais le vœu que chacun trouve dans ses journées matière à relancer son désir. Quelles que soient les difficultés des métiers que l'on exerce, quelles que soient les contradictions qui parfois nous enferment, le désir ne s'éteint pas. Il se réfugie parfois au plus profond, se fait tout petit, minuscule, inaudible, mais il reste, par nature, toujours à l'affût d'une parole qui en confirme la légitimité radicale. Merci et bonne journée.